Eh bien bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, aujourd'hui encore avec de nouveau avec la Fondation Copernic, sur le nouveau, un nouveau émission de la Fondation Copernic Mode d'emploi. Et bien aujourd'hui animé par Didier et
Corentin.
Et bien aujourd'hui nous avons un nouveau thème qui est celui de la répression syndicale. Et pour cela nous avons invité deux personnes. Yann Lemerer, qui est syndicaliste au PTT, Sud PTT,
c'est cela,
et Étienne Pénissat, qui est sociologue et chercheur au CNRS et auteur de différents articles sur la question. Par ailleurs, Étienne est co-auteur d'un rapport de l'Observatoire de la répression syndicale, on en reparlera au long de cette émission. Et donc, comme vous l'avez compris, la question sera celle, évidemment, des difficultés que rencontrent les syndicalistes face à la répression syndicale. Et Yann, malheureusement, est ici un petit peu pour nous parler de son cas personnel, puisqu'il a été, il est lui-même aujourd'hui encore sous le fait d'une répression syndicale. Voilà un petit peu pour cette émission d'aujourd'hui. Donc, vous savez que vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 si vous avez des questions à poser à l'émission. Et par ailleurs, vous savez, vous pouvez également réécouter cette émission le mercredi prochain, donc tous les mercredis, le mercredi prochain en l'occurrence, à 7h du matin, ou bien la podcaster sur différents sites, sur le site Mode d'emploi, sur le site de la Fondation Copernic, et on vous indiquera tout à l'heure le site de l'Observatoire, puisqu'il existe un observatoire, on vient de le dire, sur la répression syndicale et qui dispose d'un site. Tout ça sera donné dans les minutes qui viennent. Voilà pour cette émission.
Voilà. Donc, au cours de cette première partie de l'émission, peut-être le mieux, c'est de resituer peut-être un peu le contexte et de donner la parole à Étienne pour se poser la question de la répression syndicale et des discriminations de l'entreprise. Et comme première question, on pourrait peut-être aborder la naissance de la reconnaissance des droits syndicaux, ce qui pourra nous introduire dans un second temps vers le paysage du syndicalisme en France à notre époque.
Ouais, alors assez rapidement, hein, le droit syndical, enfin en tout cas la reconnaissance des syndicats, elle connaît son essor avec l'essor des grèves et des conflits sous la période industrielle, donc à la fin du 19e siècle, en 1884. Donc c'est un premier moment de reconnaissance du fait syndical.
Fête du 1er mai.
Voilà. Et puis tout à fait. Et puis après, il y a à nouveau une période assez forte de reconnaissance de ces droits syndicaux. Donc c'est suite au mouvement de mai 68, hein, avec la section syndicale d'entreprise, la reconnaissance et toute une série de droits qui lui sont accordés. Et puis les lois Auroux de 1882 qui renforcent une partie de ces droits et qui aussi renforcent la représentation du personnel. Avec des élus du personnel qui vont être aussi des salariés protégés, c'est-à-dire que pour les licenciés, notamment on les protège de la question du licenciement. Donc normalement pour les licenciés, il y a une procédure spécifique qui passe par l'inspection du travail. Donc en théorie, les salariés, alors dans le secteur privé, c'est pas forcément le cas du secteur public, sont protégés par ces lois, et donc ils ont un statut un peu spécifique. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait de la présence syndicale, on dit très souvent que le taux de syndicalisation est faible en France, hein, 8% et en global, et 5% dans le privé, un peu plus de 10% dans le public. Donc on dit souvent que c'est assez faible. En même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que par contre, le taux de présence, le nombre de salariés qui sont couverts par un syndicat, c'est-à-dire ils sont présents dans une entreprise où il y a un syndicat qui est présent, est quand même important, hein, c'est plus de 70%. Donc il y a quand même une couverture syndicale qui existe en France. Il y a une faible syndicalisation, mais une couverture syndicale qui est relativement présente en France, plus que dans d'autres pays d'ailleurs. Donc voilà, un peu sur ce paysage syndical-là.
Et Yann, du point de vue, alors si on prend le cas de l'entreprise dans laquelle tu travailles, quel est un petit peu le paysage syndical aujourd'hui, du point de vue de la répression, on abordera le sujet dans un second temps, mais pour situer un petit peu le paysage, comment
ça... Disons qu'il est un petit peu singulier si on discute du paysage général, du paysage syndical général, dans la mesure où c'est la fonction publique, c'est encore lié à la fonction publique, donc il y a une histoire particulière dans la fonction publique, la syndicalisation est plus élevée qu'ailleurs. La syndicalisation à la Poste, proprement dite, si on prend tout syndicat confondu, elle tourne a priori autour des 20%, donc on est bien au-delà, voilà,
enfin,
on est
à peu près
presque trois fois et demi, la syndicalisation moyenne, en France. Et, on a quand même, alors là, c'est la fonction publique, la Poste, mais c'est une société anonyme, et donc, il y a de multiples statuts, et entre autres, la protection dont il a été question tout à l'heure est effective, pour l'essentiel, en fait, des nouveaux postiers, syndicalistes, puisque depuis 2000, il n'y a plus d'embauche de fonctionnaires. Donc, on a double statut, double droit. Ça multiplie d'ailleurs certains nombres, les échelles, et ça multiplie les problèmes aussi, pour se mouvoir dans ce paysage-là quand on est syndicaliste. Et si on discute en termes de droit, les salariés qui sont représentants syndicaux dans les instances CHSCT, alors il y a le CT, bon, il y a une espèce de CE, qui n'est pas tout à fait un CE, mais voilà, qui donne une protection aux salariés, là, il n'y a pas de protection pour les fonctionnaires, pas de protection directe. Parce qu'en l'occurrence, moi, j'étais fonctionnaire, parce qu'aujourd'hui, je participe à cette grande école, cette grande maison qui est la Pôle emploi. La Poste, est un peu particulière dans la mesure où il y a une syndicalisation forte, avec, en gros, une représentativité qui vient de changer, puisqu'il y a la CGT en tête, qui est autour de 28% si je ne m'abuse. La CFDT arrive en deuxième position, ce qui est un peu une nouveauté, si on discute des 15 dernières années. Et Sud, la fédération à laquelle j'appartiens, elle, là, est autour de 20%. Donc, elle est la troisième force syndicale à la Poste.
D'accord. Et alors, si on prend maintenant un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la répression et des discriminations syndicales, pour aborder le sujet, est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui, puisque tu es chercheur, est-ce que c'est des choses qui sont regardées un petit peu par les chercheurs, et est-ce que ce sont des questions qui sont documentées, on a de l'information là-dessus, tu appartiens à l'observatoire qui a été mis en place il y a quelques temps de cela, tu peux en dire quelques mots peut-être pour commencer, et puis nous dire pourquoi cet observatoire
Alors peut-être ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à récemment, c'était quelque chose d'assez peu étudié et donc peu visible. Et notamment du côté des chercheurs, c'était une question, en fait, beaucoup de travaux qui portent sur les transformations du syndicalisme, alors avec certains qui insistent sur les questions de professionnalisation, de bureaucratisation, etc. Par contre, il y avait assez peu de choses, en fait, c'est une lacune chez les chercheurs et notamment chez les sociologues, assez peu s'intéresser aux stratégies patronales et de regarder comment le patronat gère cette question syndicale. Bon, il y a des travaux maintenant qui commencent à émerger, alors qui d'ailleurs en économie, en sociologie, il y a à la fois des études monographiques et puis des données statistiques, parce qu'une des difficultés aussi, c'est que jusqu'à très récemment, un peu objectivé, c'est-à-dire montrer l'existence de ces discriminations d'un point de vue statistique, était très difficile. Bon, donc ça rendait aussi, ça favorisait le fait que ça soit un peu invisibilisé dans l'espace public. Et j'allais dire à la fois ces travaux, à la fois quantitatifs et qualitatifs, ont permis de rendre un peu plus visibles ces questions-là. Et puis évidemment, on y reviendra, je pense, une série d'actions syndicales qui mettent cette question-là un peu sur le devant de la scène, et donc qui a débouché un peu sur la question de créer un observatoire de la répression syndicale.
Donc c'est assez récent, c'est des faits récents qui ont mené à se poser la question, puisque le phénomène avait tendance à s'amplifier, si je résume, c'est ça ?
Alors, la répression syndicale n'est pas récente. Hein. Elle naît avec l'action collective des salariés dans les entreprises. Par contre, le fait qu'on, à mon avis, on s'intéresse plus à cette question, notamment du côté des chercheurs, c'est quelque chose de plus récent, aussi parce qu'il y a eu des évolutions dans le syndicalisme, notamment dans les années 90, il y a eu une série de procédures engagées par des militants, notamment de la CGT à Peugeot, qui ont imposé des victoires juridiques, notamment, c'est-à-dire de reconnaissance de fait de discrimination syndicale.
En particulier salariale.
Voilà, en particulier salariale, c'est-à-dire en gros une pénalisation sur leur carrière du fait de leur activité syndicale, qui fait qu'ils touchaient moins que des salariés qui étaient rentrés à la même époque qu'eux, mais qui n'étaient pas forcément syndiqués. Et donc cette percée juridique, on va dire, a suscité un intérêt aussi chez les juristes, chez les avocats, chez les chercheurs, etc. Et puis, alors dire qu'il y a plus aujourd'hui de discrimination ou de répression, c'est un peu difficile à objectiver. On peut le penser. Des indices qui semblent le laisser penser, mais c'est pas si évident que ça à montrer. Par contre, on voit bien aussi que c'est une question qui impacte de plus en plus les organisations syndicales et qu'elles sont un peu obligées de faire face à ça. Ce que voir aussi, c'est que je pense que la transformation de l'économie, c'est-à-dire le développement aussi du secteur tertiaire, où on voit que notamment dans toute une série d'entreprises, du commerce, de la restauration, la difficulté à implanter des sections syndicales, avec là des faits où on voit qu'on dissuade assez vite quelqu'un qui veut se présenter sur une liste syndicale ou qui commence à exercer une activité syndicale, a aussi poussé à s'intéresser à ces questions-là. Bon, et puis peut-être plus récemment, je pense, et ce qu'on voit, c'est que la transformation d'une série d'entreprises publiques avec un statut de plus en plus mixte privé, où on voit quand même un développement de la répression et des discriminations syndicales. Ça a été vrai à France Télécom, à EDF, et puis là on le voit très nettement avec La Poste depuis plusieurs années, où c'est assez emblématique, quoi. Il y a le cas d'Yann, mais il y a plus largement, il y a toute une série de cas de discrimination.
Sur cette question, Yann, effectivement, à la fois de l'ampleur du phénomène, hein, de répression des discriminations syndicales plus largement, qui s'exerce sur les militants les plus actifs, voire plus largement, hein, parce que c'est pas, est-ce que c'est bon, vers qui effectivement s'adressent ces problèmes de discrimination, ces questions de répression. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Et puis aussi, sur la même question, est-ce que ce sont des choses qui sont discutées en entreprise? Alors, discutées par les chercheurs, on voit qu'aujourd'hui les chercheurs commencent à s'intéresser à ces questions, en lien avec le mouvement syndical, évidemment, hein, mais est-ce que en entreprise, chez toi, dans ton entreprise, ton ex-entreprise aujourd'hui, malheureusement pour toi, est-ce que ce sont des choses qui se discutent parmi les salariés? Ou est-ce que c'est encore quelque chose, parce que je sais que après avoir vu le rapport, hein, tel qu'il a été produit par l'Observatoire, on voit que pendant un moment, ces questions étaient un peu taboues, finalement, en entreprise. On n'en parlait pas beaucoup. Être syndicaliste, c'était forcément être discriminé. Et du coup, c'était de l'ordre des choses normales, quoi. Puisqu'on se battait, on devait être discriminé. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
D'abord... Le problème de la question, c'est qu'elle est, voilà, elle est protéiforme. Et dans l'entreprise, si on discute de La Poste, je crois que pour avoir une idée précise, hein, de l'augmentation de la répression antisyndicale, d'abord, il faut s'entendre sur les mots. Puisque La Poste ne veut pas éradiquer le syndicalisme. La Poste a mis en place des outils, c'est-à-dire ces concomitants réorganisations qui sont mises en place aujourd'hui, depuis les années 2000. Hein, il y a une accélération des restructurations, il y a 80 000 postes qui ont été supprimés, il y a une annonce qui est autour de 50 000 suppressions de postes à l'horizon 2020, si on réemploie le vocabulaire de l'entreprise. Donc ça veut dire vraiment il y a une agressivité là dans les restructurations qui demande à faire place nette. Mais en même temps, alors faire place nette avec un certain type de militants syndicaux. Parce que c'est vrai qu'en même temps, ils ont développé les outils quand même du dialogue social, après toute l'histoire sur le rapport Caspar, et le rapport sur tout ce qui a eu lieu autour des suicides à La Poste. Hein, ils ont mis en place des structures dites de dialogue, hein, en fait de co-construction des réorganisations, qui offrent le champ aux militants syndicaux, hein, pour être présents, quasiment au quotidien avec la direction dans des instances particulières. C'est-à-dire, ils ont multiplié à tous les niveaux, à toutes les échelles, ces structures-là. Et ce qui les ennuie, fondamentalement, c'est pas le syndicalisme. C'est le syndicalisme de lutte. C'est ceux qui mènent les grèves. Et c'est vrai qu'à cette aune-là, quand on regarde, ces dernières années, les grèves qui ont eu lieu, c'est-à-dire des grèves qui ont été très dures et très longues, pas forcément très étendues, mais souvent très dures et très longues, là, à chaque fois, quasiment, il y a des cas de répression antisyndicale. On s'attaque à des représentants syndicaux à la suite des grèves. Après, évidemment, il y a la question voilà, des représentants syndicaux et des militants syndicaux affichés, puis il y a tout ce qu'il y a derrière, enfin derrière, ou en fait devant, c'est-à-dire la pression que subit le personnel. Hier, j'ai fait 3 entretiens préalables, j'ai accompagné 3 salariés à des entretiens préalables de licenciement. 3 personnes qui sont syndiquées, qui n'ont pas de mandat, donc qui n'ont pas de protection, et là qui sont attaquées clairement pour des faits de grève, hein, parce que là il y en a 2 à qui on reproche de ne pas avoir pris le travail du jour qu'ils avaient grévé la veille, c'est-à-dire ils ont refusé la double charge, et là aujourd'hui hier, hein, ils sont passés en entretien préalable au licenciement, et ces 2 agents de Rueil qui a été en grève pendant 173 jours l'année dernière. Donc c'est compliqué de discuter de ça, et les salariés aujourd'hui, malheureusement, puisqu'on peut dire que, allez, s'il faut situer, dater un petit peu à la Poste, c'est 2005, c'est l'histoire de l'affaire de Bordeaux-Bègles. Hein, il y a une répression qui s'est accrue, voilà, sur un certain nombre de militants syndicaux. Et là, les salariés s'habituent. Je veux dire, quand ça devient le lieu commun, évidemment, les réactions du personnel sont moindres. Évidemment, on en discute. Mais j'allais dire, plus on en discute, plus on inscrit ça dans le paysage, moins c'est l'exception et moins il y a de réactions spontanées des collègues quand il s'agit de discuter de leur action à la pression.
Étienne, en lisant votre rapport, on se rend compte de la nature des répressions. Et je ne suis pas sûr que nos auditeurs soient au courant de toute la diversité de cette force, de ce rouleau compresseur qui peut aller vers des personnes comme Yann. Est-ce que vous pourriez développer un peu là-dessus ?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est que, par exemple, dans les entreprises du secteur privé notamment, entre 20, 25 et 40% des élus syndiqués ou des délégués syndicaux déclarent que leur engagement est un frein à leur carrière. Donc on voit que c'est pas un phénomène ridicule, résiduel, hein, c'est quelque chose d'assez important. On sait aussi qu'il y a une enquête qui montre, une étude assez pointue qui montre que les syndicalistes ont une pénalité salariale, c'est-à-dire, enfin, les délégués syndicaux ont une pénalité salariale, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins à même niveau de diplôme, même sexe, même ancienneté dans l'entreprise que leurs collègues. Hein, les données montrent entre 5 et 10% en moins, donc c'est pas résiduel. Et d'ailleurs, ce qui appuie ce que vient de dire Yann, hein, c'est que on sait qu'ils ont d'autant plus d'être discriminés en termes salariaux que ils sont dans une entreprise où il y a eu une grève, par exemple. Et donc, il y a de la conflictualité. Et comme les délégués syndicaux sont en général ceux qui animent ces conflits-là, bon, on voit bien que c'est eux qui sont plus exposés. Donc, par rapport à ce que disait Yann, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est-à-dire, ce qui joue, c'est pas seulement le secteur, la taille de l'entreprise, c'est aussi évidemment le type de pratique syndicale qu'on adopte. Et on voit bien que un syndicalisme plus combatif, c'est-à-dire qui va mener des grèves, qui va aussi pousser à la négociation, au sens obligé à ce qu'il y ait des négociations salariales, par exemple, a plus de chances d'être discriminé. Bon. Et c'est pas rien, hein. On estime à peu près, c'est difficile de faire cette estimation, mais le nombre de délégués syndicaux, par exemple, c'est entre 90 000 et 110 000 salariés en France. Bon, donc c'est pas ridicule, hein. On voit bien l'ampleur quand même du phénomène. Et autre chose qu'il faut dire, parce qu'évidemment, ce qu'on peut mesurer là, c'est ce qui semble être le plus grave, le plus lourd, c'est-à-dire des licenciements ou des discriminations salariales. C'est-à-dire, en gros, on touche moins que d'autres salariés. Mais évidemment, il y a tout un continuum de pratiques antisyndicales qu'on a plus de mal à voir, mais qu'on voit mieux quand on va enquêter dans les entreprises. Hein, c'est tout ce qui sont les brimades, les formes de harcèlement, et puis tout ce qui est l'entrave aux droits syndicaux. C'est-à-dire, c'est aussi tout ce qui est l'entrave à le droit de grève, l'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, etc., qui nuit et qui a un coût fort pour les organisations syndicales.
Je pense que ça doit parler à Yann, effectivement, cette affaire de l'entrave au droit syndical, en particulier sur les syndicats qui sont, enfin, c'est pas le cas pour les PTT, mais qui sont des syndicats minoritaires, disons, comme peut l'être Solidaire.
Bah, l'entrave, voilà, on peut la situer à plein de niveaux. Après, le problème, c'est voilà, c'est quelle pratique évidemment nous on développe. Et il y a des usages qui étaient voilà, qui pour nous étaient un peu le cœur, voilà, du militantisme, entre autres à la Poste. Hein. Par exemple, la présence au quotidien dans l'entreprise, les prises de parole devant les collègues, qui étaient quand même, voilà, j'allais dire, le moteur de notre syndicalisme pendant des années. Aujourd'hui, ça s'est remis en cause. Donc, est-ce que c'est... Formellement, c'est pas une entrave juridique. C'est pas une entrave comme du type entrave au CHSCT, voilà, ou entrave au mandat. C'est une entrave à notre activité et à la façon dont on la développe.
Quotidienne.
Quotidienne, évidemment. Et après... Voilà. Pendant des années, j'étais fier qu'on n'ose pas me toucher. D'ailleurs, moi, c'était ma fierté, c'était que j'étais militant syndical avec un bon groupe et que la direction n'osait pas nous attaquer. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les temps ont un peu changé.
On y reviendra, puis ce sera un petit peu le sens de notre second débat, peut-être introduire le...
Voilà, je vous propose, avant d'engager cette deuxième partie, de faire une petite pause musicale avec « For What It Worth » de Buffalo Springfield.
There's something happening here. What it is, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Eh bien, bonjour de nouveau à tous, toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par la Fondation Copernic, avec deux invités, comme vous les avez déjà entendus dans cette première partie, Yann Lemerer, qui est syndicaliste à Sud PTT, et Étienne Pénissa, sociologue et chercheur au CNRS sur des questions, entre autres, de discrimination syndicale. Alors, après cette première discussion, où on a un petit peu vu l'ampleur du phénomène et les questions de répression syndicale et de discrimination en général, peut-être maintenant donner un petit peu plus la parole à Yann. Yann, tu représentes aujourd'hui, malheureusement pour toi, un cas un petit peu emblématique des questions de répression syndicale dans un organisme comme La Poste. Tu nous as dit que c'était à la fois un organisme qui dans lequel travaillaient et des fonctionnaires et des salariés sous statut privé, donc c'est bien ça. Peut-être que tu peux nous dire d'abord d'un premier temps, avant d'évoquer ton cas directement personnel, quel est un petit peu le contexte aujourd'hui des relations professionnelles à La Poste et ce qui a pu amener justement à ce que tu sois en butte à la répression de la direction.
Le contexte, il est lié à des choix politiques voilà, qui datent quand même d'ailleurs. Quelques décennies, c'est-à-dire l'ouverture du marché postal, la transformation de l'entreprise en société anonyme, puisque depuis la fin des années 90, avec le changement, le changement de statut, puisque c'était une administration jusqu'en 88, si je ne m'abuse, c'est devenu une EPIC, donc une entreprise publique à intérêt commercial. Aujourd'hui, c'est une ESA. Tout ça, quand même, a été, le corollaire, de ces changements, ça a été une adaptation au marché futur. Et l'adaptation, ça implique des réorganisations, des filialisations. En gros, si on veut résumer brutalement, parce que là, on pourrait, je pense, sur le thème, discuter des heures. La Poste est en train de se positionner sur une ouverture du marché global. Là, on voit qu'elle essaye de faire un peu du France Télécom avec d'autres moyens, puisque c'est quand même une entreprise de main-d'œuvre, donc avec moins d'activités à forte valeur ajoutée. Donc là, ils sont en train de se positionner, pour devenir les plus performants possibles sur le marché, y compris international. Et en interne, il y avait 17 000 bureaux de poste, qu'ils essayent de transformer en ce qu'ils appellent des points de contact. Ils essayent aussi les points de contact. Aujourd'hui, ils ne sont plus nécessairement des bureaux de poste, mais des, ça peut être des buralistes, des commerçants X, Y, qui vendent des produits postaux. Et puis, une grosse pression pour faire diminuer la masse salariale. La masse salariale étant quand même assez importante à La Poste, puisqu'elle représente près de 60% aujourd'hui. C'était un peu plus il y a 10 ans. Et le but du jeu, là, c'est supprimer le maximum d'emplois quand même. J'ai dit qu'ils en avaient supprimé 80 000 les 10 dernières années, mais ça a eu des conséquences sociales. Moi, je suis issu de l'acheminement. Donc l'acheminement, en gros, c'est un peu les usines de La Poste. On était 30 000 il y a 10 ans, on est 10 000 aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que les centres de tri, qui sont des centres mécanisés où on trie le courrier pour le dispatcher sur la terre entière, sur le territoire métropolitain entre autres, mais évidemment partout ailleurs, il y a quand même une baisse de l'effectif de près des deux tiers, quoi, avec une augmentation de la productivité qu'elle est croissante. Donc le contexte c'est celui-là. Et évidemment, quand ils ont accéléré alors il y a différents noms. À chaque fois qu'il y a un nouveau plan pour l'avenir, il a un nom particulier. Mais depuis, la moitié des années 2000, il y a quand même un signal qui a été donné avec l'affaire de Bordeaux-Bègles où le GIEPN était intervenu.
Tu peux nous rappeler un petit peu.
Eh bien, c'est à Bordeaux-Bègles, donc au centre de tri de Bordeaux-Bègles. Il y a des salariés au moment d'un CHSCT qui ont fait de la rétention de cadre dans un local et chose qui se pratiquait de temps en temps à l'époque, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein, et il y a une intervention à la fin de la nuit, voilà, du GPN, donc de la police, cagoulés, FAMAS au point, et ils sont retrouvés, donc ils étaient une dizaine, hein, à se retrouver au pénal. Ils ne sont pas fait, à ces moments-là, ils ne sont pas fait révoquer pour les fonctionnaires. Et par contre, il y a eu des contractuels qui ont été licenciés à cette époque-là. Et en fait, il y a eu un petit changement quand même à partir de cette période. Si on cherche des dates, évidemment, tout ça, voilà, c'est une date, c'est toujours un point fixe et c'est pas forcément juste. C'est des processus qui sont en œuvre. Mais là, à partir de ce moment-là, effectivement, la Poste a changé d'attitude vis-à-vis du syndicalisme de lutte et celui qui est représenté, par la CGT Sud, quoi, pour être très clair. Voilà.
Et donc là, le syndicalisme face à ça dans l'entreprise, quelle a été un petit peu sa réaction?
Alors un peu comme dans beaucoup de coins, quand il y a des réorganisations, on a aussi et une atomisation de fait pendant toute une période, voilà, du nombre de salariés à la Poste, puisque bon, quand on passe de 800, je prends là, voilà, on va faire un petit peu de la microbiologie sur les Hauts-de-Seine, on était 850 à l'acheminement, aujourd'hui on est 400, donc ça a nécessairement un impact. Sur les réseaux syndicaux, donc les militants, c'était des grosses concentrations syndicales, hein, les centres de tri, hein, c'était là les endroits où il y avait le plus de sections syndicales d'importance, hein, parce que si je prends Nanterre, où on était 450, on était quand même à la CGT, j'étais à la CGT hein, pendant 10 ans, hein, on était près de 65, en sachant que déjà on avait subi, enfin, voilà, on n'était pas dans la période où il y a eu plus de syndicalisation, mais en tout je pense qu'il y avait bien 30% du bureau qui était syndiqué, quoi. Ça, c'est fini, tout ça. Depuis que la réorganisation est arrivée, les chiffres ont quand même considérablement baissé. Donc, les réseaux syndicaux sont affaiblis, ils vieillissent. Hein, les luttes sont plus difficiles parce que quand on est en permanence, et là, pour les salariés, voilà, en but aux réorganisations, aux ajustements, enfin bon, le vocabulaire change au fil du temps, mais c'est toujours la même chose, c'est des suppressions de postes, les réactions sont moindres. Et notre syndicalisme à nous, il se construit quand même essentiellement sur les réactions du personnel. Je veux dire, voilà, c'est évidemment au moment des grèves, au moment des mouvements sociaux que la plupart du temps, on se construit syndicalement et qu'on arrive à faire des équipes pérennes, voilà, qui peuvent avoir une activité quotidienne. Donc quand tout ça explose, enfin bon, en tout cas, c'est plus compliqué aujourd'hui, c'était une évidence.
Étienne, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs? Yann nous parlait tout de suite de son changement de statut, où il est passé d'un statut protégé à un statut beaucoup plus exposé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs? Est-ce qu'on connaît le déclenchement? Voilà.
Bah, le processus qu'il décrit, on le retrouve assez bien dans plusieurs entreprises qui étaient des entreprises publiques, des entreprises d'État et qui se sont transformées et qui, en devenant des entreprises privées, donc qui sont soumises à la concurrence, etc., ont une réorganisation à la fois productive et puis une réorganisation de leur méthode de gestion des syndicats. Bon, et on l'a vu à EDF, on l'a vu à France Télécom. Aujourd'hui, l'activité syndicale à France Télécom, elle est assez compliquée, on voit. Alors, parce qu'il y a une évolution de la composition de la main-d'œuvre, on a beaucoup plus de cadres et moins d'employés ou d'ouvriers, mais aussi parce que il y a eu des traitements un peu particuliers des sections syndicales les plus combatives. On connaît ça en ce moment aussi à la SNCF, il y a eu aussi des cas de répression, etc. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui touche notamment ces entreprises publiques. Alors dans le secteur privé, c'est quelque chose qui à mon avis est peut-être plus ancien, qui connaissent depuis plus longtemps. Ce qu'il faut aussi peut-être revenir, c'est que le patronat dans les années 70 a quand même a subi donc une série de mouvements et de luttes qui ont créé un certain rapport de force et il s'est réorganisé. Bon, et une des manières de se réorganiser et de traiter cette question-là, c'est quand même une grande professionnalisation de la gestion des ressources humaines et notamment de la gestion du fait syndical, c'est-à-dire que on a formé les DRH à mener la guérilla juridique, à avoir toute une série de stratégies d'entrave quotidienne, parce que c'est ce que disait Yann, ce qui souvent est le plus difficile pour les syndicalistes, c'est pas tant la non convocation du CE ou du CHSCT, ça ils peuvent intervenir, mais c'est toutes les petites embûches qu'on vous pose au quotidien et et qui font qu'on passe plus de temps à gérer ces embûches-là qu'à véritablement pouvoir intervenir auprès des salariés, à construire des mouvements, à construire de la syndicalisation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui et le patronat quand même c'est réorganisé autour de ça. C'est-à-dire, il a professionnalisé sa manière d'intervenir sur ces questions-là. On forme les DRH. Hein. Il y a des d'ailleurs parfois c'est des anciens syndicalistes, mais pas que, hein, qui forment qui apprennent à gérer les syndicalistes. Et juste pour avoir consulté le dossier de Yann, quelque chose qui est très impressionnant, c'est qu'on voit à quel point, par exemple, la Poste surveille les syndicalistes. C'est-à-dire que tout ce que fait Yann au quotidien est quand même consigné dans le dossier. C'est-à-dire, hein, dès qu'il va quelque part, voilà, il est observé, on pointe qu'il était présent sur tel site à telle heure, qu'il a fait... Bon, on voit bien qu'il y a donc ça veut dire qu'il y a une attention particulière, qu'il y a des consignes qui sont données à l'encadrement pour gérer les syndicalistes.
Yann, sans prendre ton cas précis, hein, puisque l'intérêt, effectivement, c'est de discuter de manière un petit peu plus globale, mais en quoi, effectivement, ton cas est emblématique un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui à la Poste ?
Bah, il est emblématique parce que il y a un petit...
D'abord, il est emblématique sur une chose qui est importante, c'est qu'il est emblématique sur un cadre répressif syndical pour un fonctionnaire. C'est ça
voilà.
qui est...
Là, il est emblématique de ce point de vue-là, parce que voilà, c'est un cap symbolique qui a été franchi. Il n'y avait pas eu de fonctionnaire révoqué pour faits syndicaux depuis 51. Enfin, ça, c'est le consensus historique mou. Je pense que pendant les guerres d'Algérie, il y en a visiblement
pour
eu d'autres.
Pour d'autres raisons.
Voilà.
Oui.
Donc ça fait 60 ans que la Poste n'avait pas révoqué un fonctionnaire pour fait syndical. Donc de ce point de vue-là, oui, il est emblématique. Après, voilà, il est, c'est un signal qui est lancé à l'ensemble des militants postaux, sachant que des copains syndicalistes contractuels, là, qui ont subi des licenciements, il y en a quand même eu un certain nombre dans la période qui a précédé, quoi. Alors oui, c'est un cap symbolique, c'est un signal politique. De ce point de vue-là, je pense que c'est très clair. Après,
qu'est-ce qu'on t'a reproché alors concrètement ?
Et qu'est-ce qu'on reproche aux autres aussi
de manière générale aux syndicalistes aujourd'hui ?
Bah, quand on discute de quantifier ou de voilà de
mesurer,
de mesurer, c'est quand même pas simple parce que la plupart du temps, quand même, les syndicalistes qui sont en but à la répression, ils sont pas en but à la répression parce qu'on leur reproche d'avoir milité. On leur reproche de ne pas avoir été dans la cadence, on leur reproche de s'être arrêté au bistrot, on leur reproche, comme c'est arrivé, alors là, c'était pas des syndicalistes, mais à Roquebrune, deux factrices qui mangent un sandwich à la fin de leur tournée, qui passent en conseil de discipline. Bon, ça, voilà, on peut en arriver là. Hein. La plupart du temps, ce sont des reproches qui sont liés à l'activité professionnelle. Et donc, la lisibilité, elle est quand même pas évidente. Donc, moi, on me reproche d'avoir pris la parole pendant une grève, donc qui a été un mouvement très, très, très dur l'année dernière, hein, qui a concerné 5 bureaux sur les Hauts-de-Seine, qui a duré 173 jours. On me reproche d'avoir pris la parole sans autorisation. On me reproche des intrusions dans l'établissement postaux. Alors, intrusion, c'est un peu une pratique que nous, on met, qu'on a depuis maintenant quelques années quand même. Quand on est avec des grévistes d'un bureau, qui sont souvent des petits bureaux, on va voir d'autres facteurs, pas nécessairement grévistes, et donc on fait des visites, ce que nous on appelle des visites de bureau. La Poste traduit ça en langage postal, ça devient intrusion dans l'établissement, refus d'obéissance, hein, aux ordres directs de la hiérarchie, ce qui est un peu quand même la colonne vertébrale du statut de fonctionnaire, hein, parce qu'il y a le devoir d'obéissance, et donc pendant la grève, effectivement, quand on me demande de me taire, et que c'est un cadre qui me demande...
Pourtant, tu étais, je présume, lorsque tu t'adressais aux militants et aux postiers dans les différents bureaux, tu intervenais avec ton mandat.
J'intervenais avec mon mandat, ou j'intervenais en tant que gréviste.
D'accord.
De notre point de vue, et ça c'est bon, c'était une de mes phrases fétiches à une période, c'était le rapport social change pendant une grève et les rapports hiérarchiques aussi. Bon, ça c'est évidemment un discours qui est peu entendable pour un cadre, mais enfin un cadre qui essaye de faire obstacle à notre activité dans la grève. Bon, mais ça c'est vrai qu'on l'a dit souvent. Voilà, troisième et quatrième chose, c'est refus de signer le registre de visiteurs au moment des intrusions, puisque nous, notre discours, c'est simple, nous sommes postiers, on s'adresse à des postiers, nous ne sommes pas visiteurs, donc nous refusons un peu systématiquement de signer le registre de visiteurs, puisqu'il a été mis en place sur le 92 assez récemment, et ainsi que tu le disais tout à l'heure. On est suivi à chaque fois, il y a des fiches d'intervention, alors auxquelles on n'a plus accès maintenant, parce qu'avant, ils les mettaient benoîtement dans nos dossiers, donc c'était pas inintéressant, parce qu'on pouvait quand même les donner aux gens de l'extérieur qui quand même étaient assez fascinés par la pratique, puisqu'à chaque fois qu'on intervenait sur un bureau, on avait l'heure à laquelle on intervenait, le sujet qu'on développait, l'écoute des collègues, etc., avec des petites cases, voilà, des fiches pré-remplies, sur le thème, voilà, est-ce qu'il y a une bonne écoute, une mauvaise écoute, est-ce que les gens étaient indifférents ou pas, etc., etc. Et ça, c'était quand même, voilà, c'est une pratique systématique de l'entreprise dès qu'on met notre nez à la production, et pour, en ce qui nous concerne, c'est tous les jours.
Étienne, c'est quelque chose qui vous parle de façon plus générique ?
Oui, non, mais pour là encore, pour avoir consulté le dossier de Diane, ce qui est quand même assez emblématique, c'est que, en fait, on a l'impression que le reproche qui est fait principal, c'est de faire de l'action syndicale, c'est-à-dire d'aller sur des centres, de diffuser des tracts, de faire grève, parce que si on regarde bien dans le dossier, on lui reproche pas de violence physique, pas de diffamation. Et pas de destruction de l'outil de travail. Bon, donc ils sont. Bon, ça veut pas dire qu'il faudrait sanctionner pour ça, mais en tout cas, enfin, ça se discute. Mais en tout cas, en termes légaux, ces conditions-là, elles sont pas réunies. Et donc simplement, ce qui est retenu, Yann, c'est en fait, d'animer une grève, quoi. Parce que ça se situe quand même dans un mouvement de grève. C'est ça qui est emblématique, par exemple, qui se pose là. C'est que c'est dans un mouvement de grève assez important sur un département. Où il y a toute une série de luttes, que ça arrive. Donc on voit bien aussi qu'il y a un effet derrière de répression du fait de grève. Alors on voit bien que la poche.
C'est entendable. C'est quelque chose qui est acceptable d'un point de vue, comme vous le disiez, légal, réglementaire.
Bah ça on y viendra. On posera peut-être la question à Yann. Où en est aujourd'hui la procédure? Malheureusement, je crois qu'elle est un petit peu à son terme. Ça, c'est un non.
Non, elle n'est pas à son terme. Elle est loin d'être à son terme.
D'accord.
Elle est loin d'être à son terme. Vas-y, Étienne.
Pareil, il est possible que la Poste perde. Une des problématiques, quand même, c'est que de fait, les procédures durent très longtemps. Donc là, la procédure, elle n'est pas suspendue par les recours. Donc, Yann, il est dehors pendant ce temps-là. Mais c'est quand même ça aussi qui pose problème. Ça renvoie quand même à tout le débat politique qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a tout un discours sur la démocratie sociale qui est porté sur il faut une démocratie sociale, renforcer le dialogue social dans les entreprises, mais en même temps, d'un point de vue des droits syndicaux et de l'effectivité, c'est-à-dire de faire en sorte que notamment l'inspection du travail, la justice garantissent l'effectivité des droits syndicaux, on voit bien qu'il y a des lacunes en termes de moyens, en termes de droits. Et que ça complique la tâche évidemment des syndicalistes pour faire valoir le respect de ses droits. Et donc s'il obtient, j'allais dire, satisfaction avec ses recours, bon ça arrivera très tard, quoi. Et ça c'est un problème aussi, c'est-à-dire que au final les sanctions arrivent tard et souvent elles sont faibles.
D'accord. Donc en fait c'est un moyen des patrons de dissimuler leur action et peut-être de réfréner les envies syndicales par des faits qui sont pas forcément reconnaissables mais qui portent préjudice aux salariés et du coup bloquent.
Bah, je crois j'ai effectivement noté dans le rapport que vous avez publié sur la presse syndicale que quasiment 40% des salariés disent qu'ils ne se syndiquent pas par peur de la répression. Ouais. On voit bien là l'effet très clair hein, de cas emblématiques comme ceux de Yann ou d'autres cas divers et variés qu'on peut rencontrer dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'objectif tel que vous l'exprimez dans le rapport, hein, c'est bien celui-là. C'est avant tout, peut-être, je dirais, de réprimer non pas le militant, mais l'ensemble du mouvement syndical et l'ensemble des salariés pour éviter justement que se monte des sections ou que se développent des sections.
Oui, tout à fait. Il y a un effet de dissuasion, de pas susciter effectivement l'engagement syndical du fait de ces actions-là. Et c'est permis parce que par ailleurs, les directions d'entreprise savent que elles vont être peu exposées à des sanctions. C'est-à-dire que quand bien même elles perdraient juridiquement, les sanctions sont faibles. Elles arrivent longtemps après. Donc, elles savent aussi que, non pas qu'il y a une impunité, hein, c'est pas ça, mais que qu'elles ont en tout cas des marges de manœuvre et que les coûts qu'elles vont avoir en ayant ce type de pratique sont assez faibles. Et ça, c'est une des problématiques, c'est une des choses que demande l'observatoire, c'est-à-dire que on renforce les sanctions contre les chefs d'entreprise qui ont ce type de pratique, qui sont sanctionnés parce que pour les dissuader eux à leur tour d'avoir ce type de pratique. Or, les évolutions législatives vont pas vraiment vers ça. Elles renforcent une partie de la présence syndicale par la reconnaissance de certaines institutions représentatives du personnel. Par contre, sur les droits syndicaux et sur la sanction de ceux qui les respectent pas, les choses avancent pas beaucoup. En fait.
Alors, Yann, aujourd'hui, tu en es où de cette procédure alors concrètement ?
Bah concrètement, on a été débouté en référé.
C'est-à-dire concrètement
C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de décision. Le juge a courageusement décidé de ne pas prendre, de ne pas juger. Il a renvoyé toutes les parties au fond. Et le problème du tribunal administratif, parce qu'il s'agit de tribunal administratif, c'est que les procédures sont longues. Donc si on a de la chance, ça sera en juin l'année prochaine. Et si on est dans la norme, ça sera à la fin de l'année 2016. Donc il y a aussi un recours au Conseil d'État sur le référé, parce qu'on demande le Conseil d'État déjuge le juge qui n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il me réintègre temporairement jusqu'au fond, parce que c'était la demande en référé. Et puis un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique qui là n'a qu'un avis consultatif mais qui pèsera quel que soit l'avis, ça pèsera sur la décision finale au tribunal administratif. Donc là en l'occurrence, tout à l'heure on parlait d'emblématique effectivement le cas là elle est pas inintéressante cette sanction pour discuter de la répression. Dans la mesure où jusque là quand même, moi c'est la première fois que je suis réprimé. C'est même la troisième. Depuis 10 ans, j'ai travaillé 14 mois. Mais jusque-là, effectivement, la Poste, dans toutes ses procédures, mettait en avant des faits de violence, de dégradation, voire de séquestration. Parce qu'on est passé au pénal, j'étais relaxé. Mais j'étais sanctionné. Ça veut dire, en 2010, j'étais sanctionné pour des faits de séquestration en interne. La relax est intervenue l'année dernière. La relax définitive, c'est-à-dire en cassation. Et donc évidemment ça n'a eu aucune incidence sur la sanction précédente. Aujourd'hui ils vont au cœur du sujet et de ce point de vue là c'est intéressant, et là l'avocat de la boîte l'argumente sur le cumulatif et sur, pour le reprendre un peu mot pour mot, aucune sanction n'a eu de vertu pédagogique sur moi. Donc voilà, c'est ça l'argument central de nos petits camarades de la direction.
Avant d'entamer la troisième partie de notre émission, je vous propose d'écouter un jour ou l'autre de Debout sur le Zinc, en espérant qu'un jour ou l'autre ça améliore. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi est ce soir animée par la Fondation Copernic et nous consacrons la question des discriminations syndicales en entreprise. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser un peu plus à cet observatoire qui a été créé, à savoir pourquoi il a été créé, dans quel cadre, quel est son objectif et quels sont ses livrables, ses productions.
Donc l'objectif de l'observatoire, donc qui a été créé à l'initiative de la Fondation Copernic et dans lequel on retrouve toute une série de confédérations syndicales, mais aussi le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature. L'objectif, c'est de rendre visible, c'est de documenter cette question. C'est aussi de faire des propositions pour faire respecter et renforcer les libertés syndicales. C'est-à-dire au moment où on insiste beaucoup sur la démocratie sociale, c'est de s'assurer que elle devienne pas en réalité un monologue social, mais que les salariés aient la possibilité de s'exprimer par le biais des syndicats. Et donc c'est un peu le rôle de l'observatoire. Donc il s'agit pas de remplacer les organisations syndicales, évidemment, dans les combats juridiques ou dans les luttes qu'elles peuvent mener sur ces questions-là, mais c'est d'essayer d'apporter des connaissances, des éléments qui permettent de faire connaître et reconnaître cette cette problématique. Donc on se conçoit un peu comme un point d'appui, un outil au service des syndicats. C'est aussi l'idée d'être un espace de rencontre. Peut-être qu'il manque un peu aujourd'hui entre organisations syndicales, chercheurs, juristes, aussi voilà, d'essayer d'élaborer une réflexion et des propositions, des actions communes ensemble. Donc l'Observatoire avait déjà organisé un colloque le 27 novembre 2013 avec les organisations syndicales, avec toute une série de spécialistes sur la thématique, c'est le droit syndical, quelle effectivité, point d'interrogation. Et puis, un des objectifs de l'Observatoire, c'est de produire un rapport assez régulier pour montrer quels sont les faits, puisque du point de vue de l'État, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Hein. On repère toute une série de lacunes, notamment dans les données statistiques, dans les productions des différents ministères. Cette question-là, elle est relativement absente, invisibilisée, alors qu'elle est réelle. Hein. Quand ils ont créé, par exemple, la HALD, qui était essentiellement destinée à recueillir des plaintes sur la question des discriminations liées à l'origine, au sexe, on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de syndicalistes qui déposaient des recours, qui saisissaient la HALD. Hein. Ça représente entre 5 et 10% des saisines. Donc, on voit bien que c'est un fait important. Et pourtant, il continue d'être largement peu pris en compte par les autorités, par les pouvoirs publics.
Et donc, alors vous avez pu donc nous parle d'un colloque et de ce rapport. Quel est un petit peu le contenu de ce rapport?
Le rapport, ce qu'il essaye de faire, c'est surtout déjà de dresser un état des lieux, une espèce de cartographie à la fois. De ce qu'on sait des différentes formes de répression et de discrimination syndicale, hein, de montrer un peu l'ensemble des pratiques qui peuvent exister, leur ampleur. Donc on essaye de donner toute une série de chiffres qui permettent un peu de montrer ça, de cas aussi, de témoignages ou d'enquêtes un peu plus précises, hein, qui se focalisent sur des exemples précis pour montrer ça. Et puis il y a évidemment toute une série de propositions qui sont dressés à la fin pour essayer de lutter contre les cas de discrimination et de répression syndicale.
Et ces propositions, alors, elles tournent autour de quel thème, alors ?
Bon, il y a des propositions autour de, évidemment, faciliter l'accès à la justice pour les salariés et leurs représentants. Hein. Par exemple, rendre possible le fait qu'il y ait des actions collectives et plus seulement des actions individuelles pour... faire constater l'existence d'une discrimination envers plusieurs salariés. Aujourd'hui, à chaque fois, il faut que ce soit... On fait ça de manière individuelle. Bon, ça pourrait être...
C'est un petit peu la question d'action de groupe, c'est ça ?
Voilà, ça pourrait être porté par...
Par l'ensemble du collectif.
Salariés. Voilà, c'est quelque chose qui faciliterait ce type de procédure. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, de renforcer les sanctions contre les employeurs. Et ça va quand même un peu à l'encontre aussi d'aujourd'hui. On a vu que dans la loi Macron, il y avait l'idée de dépénaliser les entraves aux droits syndicales. Bon, là, nous, au contraire, on propose plutôt de renforcer ces sanctions pénales, notamment, pour dissuader les employeurs d'avoir ce type de pratique. L'idée, c'est aussi de les dissuader, notamment, d'avoir toute une série de stratégies qui empêche l'existence d'une représentation syndicale. Par exemple, toutes les entreprises qui vont jouer sur les seuils pour rester toujours en dessous des seuils qui font que ça permet de créer un comité d'entreprise ou des DP qui évidemment facilitent qui permettent l'existence d'une représentation des salariés et d'une action syndicale.
C'est-à-dire qu'ils créent un morcellement virtuel pour être en dessous des seuils de la représentation.
Et ça, à la Poste, ce phénomène-là, on ne le reconnaît pas, puisque non, c'est un établissement qui reste une entité complète, ou est-ce qu'on trouve des choses de ce type?
En fait, on trouve des choses de ce type, de façon un peu différente, dans la mesure où ça serait quand même compliqué de filialiser par paquet de 49. En l'occurrence, sur la question des CHS, c'est ce qui s'est passé aux avant-dernières élections. Voilà, il y a des nouveaux textes qui sont sortis, et ils ont, on avait des seuils hein, de création de CHSCT qui était à 100, et en fait, enfin non, ils ont créé un seuil à 100, on réclamait 50, le code du travail, quoi. Et en l'occurrence, la Poste a fait barrage. Donc, de fait, on a moins d'instances qu'avant. Voilà. Et puis, moins d'instances, ça veut dire aussi moins de protection. Parce que si on fait un supra CHS départemental, par exemple, bah, ça veut dire que même si on a 10 élus, hein, on est loin des 45 qu'on a aujourd'hui. Et 45 aujourd'hui avec un mandat CHS sur le 92, ça veut dire 45 personnes qui sont protégées, enfin, entre guillemets. Mais en tout cas, on peut pas, licencier comme ça, du jour au lendemain, sans raison.
Mais le texte aujourd'hui dont on parle, enfin, les textes qui sont aujourd'hui en discussion, normalement, ouvrirait la possibilité aux délégués syndicaux à pouvoir justement exercer des mandats sur le territoire. Ça existe un petit peu à la Poste ou comment ça se passe de ce point de vue? Parce que je comprends bien ce qui s'est passé pour toi, c'est que bon, on t'a reproché en particulier de ne pas être sur ton bureau de poste et d'aller avec ton mandat ou dans le cas d'une grève, pas forcément avec ton mandat, mais en tant que militant gréviste, d'aller voilà, te balader sur un bureau de poste à côté.
Non, on m'a pas reproché ça.
On t'a pas reproché ça.
Parce que dans la mesure où, en fait, comme j'étais sanctionné depuis quelques années et que j'étais souvent dehors, j'étais permanent syndical, c'est peu de temps en réalité, 9 mois.
D'accord.
Hein, avant, j'étais dans un centre de tri, donc j'étais en activité sur l'ensemble du département, mais voilà, j'étais pas officiellement permanent. J'avais donc un mandat syndical, j'avais parti de la direction de mon syndicat, c'était vrai aussi à la CGT, hein. Donc là, j'étais au CHSCT départemental. Donc à ce titre-là, théoriquement, je peux visiter tous les établissements au moment où je veux. Mais la réalité, c'est que voilà, le problème de la codification, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire le corpus juridique qui concerne le travail est déjà énorme. Je parle même pas de l'administratif, en mettant de côté. C'est que plus on multiplie les textes, plus il y a des juristes qui, bon, c'est le métier quand même, hein, qui jouent sur la lecture des textes. Et là, nous, là, on est en but à ça, puisque on est devenu très procédurier. Alors, puisqu'on mène des grèves, mais on est aussi nous devenus procéduriers. Et on est, il n'y a pas un jour, un mois qui passe sans qu'on ait 3-4 affaires en cours. Et là, on a besoin d'aide d'un avocat, hein, donc ça a un coût sur le plan financier. Voilà, tout ça, c'est compliqué. Voilà, l'imposition des textes, y compris sur le droit syndical. Ou la répression, par exemple, la mise en place serait pas forcément très simple. Moi, j'ai tendance à penser quand même que c'est le climat social qui détermine l'attitude, voilà, des générales, hein, qui détermine l'attitude, voilà, de nos petits camarades dirigeants. Parce que la vérité, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de textes qui sont en principe, voilà, qui nous autorisent à avoir un certain nombre d'activités sur le plan syndical. Mais quand à la Poste, par exemple, on interdit à des militants de distribuer des tracts, hein, où on nous empêche de rentrer dans des entités qu'on est censé couvrir, là, de par notre mandat, tout ça, c'est des entraves qu'on peut attaquer, mais qui sont jamais écrites. Voilà, donc, je veux dire, c'est compliqué, cette question-là. Et c'est vrai que la résolution, non, j'ai lu le rapport, hein, voilà, et les conclusions de l'Observatoire.
Oui.
Bon, il y a des choses avec lesquelles, mais bon, enfin, la question du parcours professionnel, du parcours professionnel, par exemple, pose un tas de problèmes. La sécurisation du parcours professionnel du militant syndical pose des problèmes. En tout cas, à terme, à la Poste, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une promotion syndicale. Donc, évidemment, les conséquences de cette promotion syndicale, c'est-à-dire qu'il y a des places qui sont prédéfinies à l'avance par la direction nationale, qui sont gérées par les fédérations. Sur la promotion, donc là on peut devenir 4 sup en partant de la base sans jamais travailler. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler une sécurisation du parcours professionnel.
Un certain type de syndicalisme, je présume.
Non, l'ensemble des syndicats ont droit à ça. Sud refuse.
Ah, pardon.
Sud refuse. D'accord. De le faire. C'est-à-dire qu'il y a des places, voilà, il y a des places offertes tous les ans. Voilà,
en promotion.
Un petit paquet cadeau de promotion. Évidemment, il y a un certain nombre de syndicats qui les utilisent. Sud, non.
Voilà. D'accord.
Mais et la question de la sécurisation voilà, quelle est la lecture qu'on peut faire par exemple de cette question-là? Voilà, c'est pas simple. Moi, je sais qu'à Renault, par exemple, il y a des gens qui sont appuyés, que je connais, qui sont appuyés sur, dans les années 90, justement, sur, dans le privé, qui étaient là pour le coup en capacité de trouver des travailleurs et qu'ils avaient travaillé 30 ans avant en Billancourt et qu'on gagnait sur la discrimination. À la Poste, c'est plus compliqué parce qu'il y a les grilles indiciaires, y compris chez les... Voilà, tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas simples. Pardon.
Et Étienne, du coup, pour en revenir sur ce rapport, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Quel est son avenir? Est-ce qu'il a pour objectif d'être porté? On en parle à notre radio aujourd'hui. On espère que les gens y jetteront un coup d'œil, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Bon, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être appliqué, même si Yann a soulevé des points de discussion, en tout cas. Alors moi, par rapport à ce que dit Yann, par ailleurs, je pense qu'il faut articuler les deux. C'est-à-dire, il y a une question de sécurisation des militants syndicaux d'un point de vue individuel. Et je pense que l'Observatoire essaie de bien tenir les deux, c'est aussi renforcer l'effectivité des droits syndicaux, c'est-à-dire pas seulement, on va dire, des super délégués syndicalistes ou des permanents, mais aussi tout simplement du droit de ceux qui veulent agir dans leur entreprise à ce qu'on respecte ces droits-là. Bon, alors évidemment, les propositions de l'Observatoire, elles sont tourner sur des propositions juridiques, c'est-à-dire sur la question du rapport de force. Bon, c'est de fait dans les entreprises que vous allez le construire, que vous pouvez le construire vous. Là, nous, on peut que aider, être en appui, mais c'est pas nous qui allons faire ça.
Donc, c'est déjà un beau projet.
C'est déjà un beau projet, non? ce qu'on essaye de faire, mais et ça montre aussi quand même la difficulté. Hein, je trouve à chaque fois, on est très très étonné de voir que on a beaucoup parlé ces derniers temps de liberté d'expression, etc. Et de faire la liberté syndicale, c'est une déclinaison de forme de liberté d'expression, de liberté collective. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire percer, notamment dans les médias. On voit, on a fait plusieurs tribunes pour expliquer les effets de la loi Macron ou d'autres lois sur ces questions-là. Et c'est difficile de les faire passer. Hein. Il y a un mur médiatique contre ça.
Donc on arrive effectivement à la fin de cette émission. On a vu que la discrimination était là, en particulier pour essayer de polisser le syndicalisme. On souhaite un bel avenir au syndicalisme. Avant de toucher, d'écouter, on va écouter un dernier morceau qui sera No More Trouble de Bob Marley. Le prochain numéro du Mode d'emploi sera animé donc par la Fondation Copernic sur le thème de la COP21 et du sommet alternatif Alternativa. Merci à vous d'être venus à notre émission.
Merci.
Merci.